Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Le feu du dedans est un essai de Carlos Castaneda » publié dans le cycle attribué aux enseignements de Don Juan Matus, loin de se construire principalement autour de récits de plantes psychotropes ou de scènes initiatiques. Le livre organise et approfondit un vocabulaire visionnaire déjà présent dans les volumes antérieurs. Il examine la perception, la conscience et la discipline du guerrier à travers les notions de voir, de nagual, de points d'assemblage et de feu intérieur. Castaneda y retrace aussi une généalogie symbolique opposant les anciens voyants, séduits par la puissance de leur découverte, aux nouveaux voyants, qui cherchent une voie plus sobre et plus libre. Le texte relève à la fois du récit d'enseignement ésotérique, de la spéculation métaphysique et de la réflexion sur les limites de la raison ordinaire. Il doit être lu comme une œuvre littéraire et philosophique controversée, plutôt que comme un document anthropologique démontré. Son objectif est de décrire une transformation radicale des cadres habituels de perception. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, voir comme déplacement des cadres ordinaires de perception. Dans le feu du dedans, voir ne désigne pas une observation plus attentive du monde visible. Le terme renvoie à une modalité de perception supposée contourner les descriptions ordinaires, sociales et linguistiques de la réalité. Castaneda oppose ainsi ce mode de connaissance à la simple accumulation de croyances ou de savoirs. La difficulté centrale ne serait pas un manque de données, mais la rigidité des habitudes par lesquelles chacun interprète ce qui lui arrive. Cette idée donne au livre sa cohérence. Les exercices, les récits et les concepts ne visent pas à fournir une doctrine stable, mais à ébranler la certitude que la perception quotidienne épuise le réel. Le lecteur rencontre donc un langage volontairement déroutant, où le corps, l'énergie et la conscience sont pensés ensemble. Le livre ne propose pas une méthode vérifiable au sens scientifique. Il met plutôt en scène une critique imagée de la perception conventionnelle. Cette distinction est importante pour une lecture rigoureuse. La valeur du texte tient à la force de ses images et à son interrogation sur les filtres mentaux, non à une validation empirique de ses affirmations. Voir devient alors le nom d'une disponibilité exigeante à ce qui échappe aux catégories familières. Deuxièmement, le point d'assemblage est la construction d'un monde cohérent. Le point d'assemblage constitue une des images conceptuelles les plus marquantes du livre. Dans le système de Castaneda, il représente le lieu énergétique où les émanations perçues sont organisées afin de produire un monde cohérent. La réalité humaine habituelle ne résulterait donc pas uniquement des objets extérieurs, mais aussi de la position depuis laquelle la conscience les assemble. Un déplacement de ce point modifierait profondément le champ de ce qui peut être perçu. Cette proposition soutient la logique interne. De nombreux épisodes du cycle des mondes différents ne sont pas présentés comme de simples fantaisies, mais comme des configurations de perceptions alternatives. Sur un plan analytique, cette notion fournit une métaphore dense de la construction de l'expérience. Elle suggère que les convictions, les usages du langage et les attentes culturelles stabilisent une vision du monde, tout en limitant ce qui peut être reconnu. Toutefois, le texte traite cette métaphore comme une réalité opératoire de son univers ésotérique. Le lecteur gagne à distinguer ces deux niveaux. Comme image philosophique, le point d'assemblage aide à penser la plasticité de l'attention. Comme thèse littérale sur le corps énergétique, il appartient au cadre non vérifié de Castaneda. Cette tension explique à la fois la puissance évocatrice et la contestation durable de l'œuvre. Troisièmement, les anciens et les nouveaux voyants face au risque d'effacination. Le livre développe une opposition historique et morale entre les anciens voyants toltèques et les nouveaux voyants liés au lignage de Don Juan. Les premiers sont décrits comme extrêmement capables, mais vulnérables à la fascination exercée par leur propre découverte. Leur erreur ne relève pas seulement de la curiosité ou de la recherche de pouvoir. Elle réside dans le fait de confondre une capacité de perception avec une libération véritable. Castaneda fait de cette dérive une critique générale de la séduction du savoir exceptionnel. Les nouveaux voyants sont au contraire associés à la sobriété, à la discipline et à une prudence envers les pouvoirs qui renforcent le sentiment de grandeur personnelle. Cette opposition donne au livre une portée éthique. Il ne suffit pas de déplacer les limites de la connaissance, il faut aussi éviter que cette connaissance devienne un nouvel attachement. La leçon reste abstraite, mais elle possède une logique précise. Une pratique qui promet un accès privilégié au réel peut produire dépendance, peur ou narcissisme si elle ne comporte pas de limites. Dans le cadre fictionnel ou ésotérique du texte, la généalogie des voyants sert ainsi de mise en garde contre la puissance sans mesure. Elle structure aussi la différence entre l'exploration spectaculaire et la maîtrise de soi. Quatrièmement, l'aigle et le feu intérieur comme cosmologie de la conscience. Le feu du dedans approfondit la figure de l'aigle, introduite dans un volume antérieur du cycle. L'aigle y désigne une instance cosmique, liée aux émanations qui fondent la perception et la conscience. il ne faut pas réduire cette figure à une divinité personnelle au sens religieux courant dans le langage de Castaneda. Elle sert surtout à exprimer une loi impersonnelle et immense, devant laquelle la vie humaine apparaît limitée. Le feu intérieur se rattache à cette cosmologie. Il désigne la force ou la conscience propre à l'être humain, envisagée non comme une possession durable du moi, mais comme une intensité susceptible de se déployer et de se dissoudre. Cette vision déplace les questions morales traditionnelles. Le bien et le mal ne sont pas présentés sous la forme de règles universelles simples, mais à travers les conséquences de la lucidité, de la dépendance et de la perte de liberté. La cosmologie donne donc une échelle dramatique à la discipline du guerrier. Chaque geste compte parce que la conscience est finie et parce que les illusions personnelles consument de l'énergie. Pour un lecteur contemporain, ces thèmes peuvent être abordés comme une mythologie philosophique de la finitude. Ils proposent une image saisissante de la conscience sans exiger une adhésion littérale à son univers énergétique. En dernier lieu, la discipline du guerrier contre la complaisance personnelle. La discipline du guerrier traverse le livre comme une réponse pratique au danger de la fascination et de la confusion perceptive. Elle ne correspond pas à une morale de la performance ni à un code social ordinaire. Castaneda la relie plutôt à la vigilance, à la réduction de la complaisance personnelle et à la capacité de faire face à la mort comme limite permanente. La complaisance personnelle désigne la tendance du moi à se placer au centre de toute expérience, à entretenir ses blessures, ses prétentions et ses récits habituels. En la combattant, le guerrier ne cherche pas à devenir invulnérable, mais à libérer de l'énergie pour agir avec davantage de précision. Cette perspective explique le ton souvent austère du texte. La sagesse ne résulte pas d'une accumulation de visions extraordinaires. Elle suppose de renoncer aux bénéfices psychologiques tirés de son importance personnelle. Le livre rapproche ainsi connaissance et responsabilité. Toute ouverture de la perception demande une forme de discipline, faute de quoi elle risque de nourrir l'illusion plutôt que la lucidité. Cette éthique reste inséparable du cadre ésotérique de Castaneda, mais elle peut aussi se lire comme une réflexion sur les récits que chacun fabrique pour se protéger. Son intérêt littéraire vient de cette articulation entre une cosmologie grandiose et un travail très concret sur les habitudes du moi. En conclusion, Le feu du dedans conviendra surtout aux lecteurs déjà familiers du cycle de Carlos Castaneda, en particulier de Histoire de pouvoir et du don de l'aigle. Il peut également intéresser les lecteurs de littérature ésotérique, de mythologie de la conscience et de fiction philosophique qui acceptent un vocabulaire dense, répétitif par moments et peu soucieux de démonstrations scientifiques. Son bénéfice intellectuel réside moins dans la transmission de pratiques fiables que dans la confrontation avec une pensée de la perception comme construction, de la mort comme limite et de la discipline comme refus de la complaisance. Le livre invite à examiner la part des habitudes, des récits personnels et des attentes collectives dans ce qui paraît immédiatement réel. Il faut néanmoins conserver une distance critique. Les récits de Castaneda et leur présentation anthropologique ont fait l'objet de contestations importantes, et le texte ne doit pas être reçu comme une source ethnographique établie sur les traditions yaqui ou toltèques. Par rapport à beaucoup de manuels spirituels, il se distingue par son ambition cosmologique et par une langue qui ne sépare jamais nettement psychologie, métaphysique et aventure initiatique. Par rapport à des essais philosophiques classiques, il offre moins de démonstrations, mais davantage de puissance imagée. Cette singularité en fait une lecture stimulante pour qui recherche une cartographie symbolique de la conscience, tout en sachant distinguer expérience littéraire, spéculation spirituelle et connaissances vérifiables. Si vous souhaitez soutenir Carlos Castaneda, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Et après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!